Réplique, le féminisme aujourd'hui, avec Caroline Fourest et Claude Habib. L'introduction de son livre « Le deuxième sexe » paru en 1949, Simone de Beauvoir écrit que la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel, il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. On prétend la figer en objet et l'avouer à l'immanence, puisque sa transcendance est transcendée par une autre conscience essentielle et souveraine. Nous sommes en 2015, et l'égalité, depuis la publication du deuxième sexe, a fait d'immenses progrès. Les pères ont perdu en 1970 le titre de chef de famille, les femmes ne sont plus reléguées dans la sphère domestique, ni cantonnées à des métiers subalternes. L'âge des housewives est révolu, les dernières poupées Barbie sont journalistes, ingénieurs informatiques ou astronautes. Je ne parle pas ici de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde ou de la Chine, mais en France et dans les autres pays occidentaux, l'ordre patriarcal a été démantelé. Ce qui m'amène à commencer cette conversation avec Claude Habib et Caroline Fourest par une provocation. Le féminisme ayant gagné et l'égalité ayant mis à bas l'une après l'autre toutes les places fortes de la domination masculine, quel sens y a-t-il, sinon à se déclarer féministe, du moins à vouloir continuer le combat, Caroline Fourest?
Alors d'abord, il y a quand même un postulat intéressant qui consiste à exclure l'immense majorité du monde de ce combat. Puisque vous avez bien fait de le préciser, vous ne parliez donc que des pays européens et des États-Unis. Mais ailleurs, la planète est à feu et à sang à cause des droits des femmes. Le féminisme a réveillé une douleur misogyne et masculine qui est à la base, à mes yeux, du regain de fanatisme partout. Des petites filles sont enlevées parce qu'elles vont à l'école, d'autres se font tirer dessus, comme Malala. Mais ça n'est que l'écume d'une exploitation, d'une intimidation à une échelle peut-être jamais vue en termes de domination. Mais quand bien même nous ne parlerions que de l'Europe et des États-Unis, évidemment, si nous en parlons par comparaison avec cette vague si caricaturale, si barbare, si sauvage qui s'en prend aux femmes, on peut estimer que nous avons gagné. On peut estimer que là, le combat est tellement de l'ordre du raffinement qu'il est dérisoire. Mais même ici, il y a un viol toutes les 7 minutes, 75 000 viols par an. Même ici, tous les bastions ne sont pas des bastions d'égalité. La figure de l'intellectuel est toujours excessivement masculine. Et la figure de l'intellectuel féminin est d'ailleurs souvent reléguée à des thèmes qui sont de l'ordre de la répartition des rôles comme un prolongement de la sphère privée. C'est une bataille réelle que d'imposer des thèmes qui sont des thèmes plus universalistes. Cette génération, celle d'avant, et peut-être encore celle d'avant, mais c'est le tout début d'une renégociation de l'universalisme dans son acceptation réelle, pleine et entière. Dernier exemple, pardon, la polémique sur le genre est hallucinante. Le fait d'avoir voulu expliquer aux petites filles, aux petits garçons dans nos écoles que peut-être le masculin et le féminin étaient de l'ordre de la construction a déclenché des retraits d'enfants. Des familles ont été terrorisées, des foules sont descendues dans les rues de France. C'est quand même pas tout à fait apaisé.
Oui, enfin, Claude Habib, m'exprimer tout de suite.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, de toute façon, c'est une situation inconfortable de se dire que toute l'histoire mondiale et toute la géographie, et nous, on est sur une île où ça va à peu près, c'est une situation, vous l'admettrez, menacée. Mais il me semble l'expression la plus claire, c'est celle de Françoise Héritier, qui disait qu'il y a trois dimensions de la domination. Pour que les femmes soient dominées, il faut qu'elles ne disposent pas de leur corps, qu'elles soient mariées qu'elles, par leur frère ou par leur père et qu'elles ne calculent pas leur nombre d'enfants. Il faut qu'elles n'aient pas accès au savoir et il faut qu'elles n'aient pas accès au pouvoir. Or, manifestement, sur les deux premiers cas, on est tranquille. La contraception a changé la face des choses et l'accès au savoir, c'est fait. L'accès au pouvoir, manifestement, c'est pas fait. Il reste un plafond de verre. Si on entend les cris de celles qui se cognent, il faut les prendre au sérieux. Et récemment, tout de même, on a vu l'écart qui existe en France entre les paroles supracélestes et les manœuvres souterraines. Dans cette mise en avant des listes un homme, une femme aux élections départementales qui se traduit par 90 présidents de conseil sur 100. Donc là, on a exactement comme dans l'épisode des jupettes en 95, soudain 12 femmes ministres et puis au prochain changement ministériel, il n'en reste plus que 3, l'idée de quelque chose qui continue d'être bafouant.
Alors écoutez, là je ferai une objection que vous allez sans doute qualifier de masculine à l'une et à l'autre. D'abord Caroline Fourest, il me semble que la vie intellectuelle a changé. Simone de Beauvoir était peut-être une exception. Aujourd'hui, les femmes sont nombreuses à animer la vie des idées. Elles s'expriment, comme aujourd'hui, sur le féminisme, mais pas seulement, pas seulement. Et votre cas, d'ailleurs, l'atteste. Vous allez publier un livre sur le blasphème dans quelques jours. Et vous allez évidemment avoir, en quelque sorte, à en répondre. Vous allez occuper l'espace public. De multiples exemples peuvent être aussi, si vous voulez, avancés. Et puis, sur la question du pouvoir, là encore, Claude Habib, je suis très surpris. Les jupettes, ça a été un échec majeur, mais aujourd'hui, l'exigence de parité s'impose a priori au gouvernement. Donc, on peut se demander d'ailleurs si la question de la compétence n'est pas elle-même, en quelque sorte, reléguée au second plan. Et beaucoup d'hommes blancs peuvent aujourd'hui vous dire qu'ils sont désavantagés en politique par cet a priori là.
Oui, comme toujours, et quand
je pense, alors je termine, excusez-moi, à cette phrase d'Hélène Carrère d'Encausse qui m'a dit un jour, en parlant justement de ces binômes, eh bien elle m'a dit, on traite aujourd'hui les femmes comme une espèce protégée et c'est vexant. Donc on peut aussi renverser les choses. Il y a une mise en avant des femmes que certaines femmes jugent offensantes pour elles parce qu'elles peuvent avoir le soupçon que ce n'est pas en fonction de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, qu'on les choisit à des hauts postes, mais parce que ce sont des femmes, et quand elles appartiennent à une minorité, alors là, on leur déroule le tapis rouge. Claude Habib, Caroline Fourest.
C'était la position d'Elisabeth Badinter au moment où la parité a été gravée dans le marbre par Jospin. Là, on voit très bien la différence entre un discours idéologique et une pratique. La pratique ne suit pas. Et c'est bien parce qu'il y a le discours idéologique que ça devient patent, que ça devient visible, que ça ne suit pas. 9 hommes sur 10, enfin, que cette proportion est humiliante. Je veux bien que les femmes s'occupent d'autre chose que de politique. Je veux bien que la passion et les enfants occupent une grande part de leur existence. Mais enfin...
Mais d'ailleurs, c'est le fait d'avoir besoin... Moi, je suis complètement d'accord avec le fait que cette mise en avant de quotas, même d'exigences de parité, est humiliante. Mais elle répond à une humiliation précédente. Et quand on fait, par exemple, quand on sait qu'on attend plutôt pour des grandes instances culturelles ou des grandes instances audiovisuelles comme France Télévisions, des candidatures plutôt féminines, parce qu'il y a un désir politique de mettre en avant un leadership plus féminin, c'est assez humiliant. N'empêche que sur 30 candidatures, il n'y a que 3 femmes qui osent déposer un dossier. Alors ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus subtil dans cet héritage millénaire du patriarcat, qui ne vient pas simplement d'une oppression qui est unilatérale, c'est une oppression qui se construit à deux. Et quand on a intégré pendant des générations qu'il fallait, pour être féminin, plutôt être discret, qu'il fallait ne pas parler trop fort, qu'il ne fallait ne pas se mettre en avant, contrairement à son petit frère, contrairement à son père, eh bien c'est assez logique qu'on retrouve dans l'espace public, même si nous sommes évidemment dans la génération qui va le mieux, qui avance le plus, mais c'est assez logique de voir que c'est assez peu naturel pour des femmes de se mettre en avant, de se défendre, d'aller faire du lobbying, d'aller faire un travail de réseau, qui sont les jeux usuels pour avoir des postes de pouvoir. Et pour vous répondre, Alain, sur la question, évidemment que la figure médiatique est très partagée. Je la distingue quand même de ce qu'on considère comme étant la posture intellectuelle. Dans l'espace médiatique est un espace assez et même très démocratique. Si vous êtes pédagogue, si vous êtes synthétique, si vous travaillez beaucoup et que vous avez un point de vue qui réellement est nécessaire, vous aurez votre espace et vous aurez votre place à table. Ce qu'on considère comme étant de l'ordre d'une posture intellectuelle répond encore à quelques critères inconscients où les uns sont renvoyés à cette grande tradition et les unes sont renvoyées plutôt à des postures militantes et généralement d'ailleurs rétrécies à la posture militante féministe. Mais il y a quand même encore d'autres bastions. Je parlais du viol et je parlais du genre parce que les postes de pouvoir sont en réalité la fin de la comète. Mais réellement aujourd'hui, et on le voit en France, en Europe, le fait que cette démocratisation soit en marche trouve des résistances et le regain du fanatisme religieux ici aussi est lié à cette résistance de l'avancée de l'égalité.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire que quand je dis que la peur de la mise à égalité des hommes et des femmes a régénéré le fanatisme religieux, tous les fanatismes religieux dans le monde, ça se produit ici aussi.
Oui, mais alors ce qui se produit ici comme aux États-Unis, c'est le contact. Et d'ailleurs même comme ça a pu être le cas au Moyen-Orient, à l'époque du Yishuv, où les Juifs sont arrivés en Palestine, c'est la mise en contact entre, effectivement, une tradition patriarcale et un monde de l'égalité qui apparaît aux représentants, aux porte-parole de cette tradition ou de ce qu'il en reste, comme particulièrement insultant ou blasphématoire, sacrilège et scandaleux. C'est tout le sens, me semble-t-il, de l'effort de ni pute ni soumise. Donc là, on ne peut pas, si vous voulez, imputer le regain de ce fanatisme à ce qui resterait de domination masculine en Occident. C'est précisément parce que cette domination masculine n'existe pas et que les femmes, disons, y sont libres, qu'elles s'y affichent en quelque sorte, que le repli fanatique peut se produire.
Sauf qu'il y a un retour de balancier à ce que vous venez de dire. D'abord, je partage pas entièrement votre vision presque d'étanchéité, une forme de confrontation culturelle qui serait à l'origine de ce raidissement. Nous parlons de générations de citoyens français depuis plusieurs générations qui, effectivement, pour certains, viennent d'une immigration qui a des origines et des pays qui sont à un stade plus patriarcal encore, mais qui, pas seulement, le fait qu'il y ait ce regain de crise identitaire, d'une identité qui passe par la reconfessionnalisation, a fini par générer aussi chez d'autres Français, peut-être d'autres immigrations, ou peut-être pas issus d'une immigration récente, cette espèce de regain de virilité, d'identité virile réaffirmée, et Éric Zemmour n'est pas, que je sache, issu, enfin si, il est issu d'une immigration patriarcale lui aussi, mais qui essaie au nom d'une identité française éternelle de se raidir sur cette question du patriarcat, justement en défense. Donc finalement, les patriarcaux se raidissent de part et d'autre, et les droits des femmes au milieu, y compris en France, en sont bien victimes.
J'ai pas d'avis sur la question de savoir s'il y a vraiment un raidissement d'un ancien patriarcat. Je crois que, bon, il y a Zemmour, il y a Lebras de temps en temps qui disent des sottises, mais ils sont quand même pas.
Mais alors, est-ce que vous avez un avis, Claude Abîme, sur justement cette question du genre qui aurait suscité l'introduction des études de genre à l'université, puis dans les lycées et les écoles, aurait suscité des réactions disproportionné, et là encore, un raidissement qui témoignerait de la nécessité de poursuivre le combat féministe.
Pour moi, il faut savoir si cette question du genre telle qu'elle est traitée aujourd'hui fait encore partie de la lutte féministe. Et c'est une vraie question, parce que ça a tout de même changé. Bérénice Levet déclarait que ce n'est plus l'égalité des droits qui est poursuivie, mais l'interchangeabilité des êtres. Et c'est une formule qui a beaucoup de sens. Beaucoup de sens parce que, dans une grande partie du féminisme universaliste, du féminisme qui sort de Beauvoir, il y avait une sorte, pas d'interdit de pensée, mais de réticence sur cette question de la différence des sexes. On n'allait pas en parler, parce que en parler, c'était, si on parlait de différence, on donnait des bâtons pour se faire battre. On donnait des arguments à la discrimination, donc il fallait mettre ça sous une sorte de boisseau. La différence, écrivait Elisabeth Badinter, fait mauvais ménage avec l'égalité. Donc ça, c'était un premier temps. Mais maintenant, les choses ont tourné en passant du féminisme universaliste au mouvement queer, on est passé d'une réticence qui avait un sens politique, qui était la question de l'égalité, à quelque chose de tout à fait différent, puisque là, c'est un vrai interdit de penser. Les genres ne sont que des constructions socio-historiques, dont on peut d'ailleurs apprécier tel ou tel aspect, mais à condition qu'ils soient subordonnés à la liberté individuelle qui s'exerce indéfiniment. La liberté individuelle de changer de genre, l'ivresse de ses performances indéfiniment réversibles. Et donc, c'est plus du tout le thème de l'égalité qui est central, c'est le thème de la liberté de l'individu. Et le féminisme est perdu dans une représentation de ce genre, parce que si le féminin est un truc qu'on prend, qu'on lâche selon le désir, dans ce carnaval, qui peut d'ailleurs être amusant ou difficile, douloureux pour les individus qui s'y livrent, c'est varié. Ce qui est perdu, c'est la fracture. Ce qui est perdu, c'est l'idée de la domination, l'idée de l'oppression. Donc, on est dans une nouvelle configuration et je ne crois pas que ce soit sage ou réaliste de vouloir indéfiniment lutter contre les stéréotypes genrés, comme on dit.
Alors, je crois que je peux partager une partie de votre raisonnement, sauf la dernière phrase. Voyons, on peut être tout à fait déterminé à lutter contre les stéréotypes genrés et avoir les mêmes interrogations sur une façon de transformer cette demande d'indifférenciation en termes d'imposition de normes en frivolité déconnectée de tout rapport de force, de toute réalité de construction de ces genres. Pour le dire clairement, moi je suis issue d'un féminisme beauvoirien, universaliste et forcément donc à mes yeux déconstructeur de ces stéréotypes. Quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », cette phrase est porteuse en soi de cette volonté d'accéder à l'universel dans le droit à l'indifférence et non pas par le droit à la différence, exactement comme pour la bataille qu'on peut retrouver au sein de l'antiracisme entre les universalistes et les communautaristes. Et de l'autre côté, je suis régulièrement en tension avec des féministes, des communautaristes gays et lesbiens qui, se revendiquant de Judith Butler et peut-être d'une vision un peu, à mes yeux, pervertis de Foucault, sont allés jusqu'à faire de la question du genre une question plus effectivement carnavalesque, qui va jusqu'à d'ailleurs unir ces mouvements qui sont pourtant pour la déconstruction des genres à des mouvements qui défendent le voile, qui est l'instrument par définition d'assignation au genre. Donc c'est une confusion intellectuelle qui est quand même assez majeure. Et entre ces mouvements-là, comment moi je vois le féminisme dans ce qu'il apporte de plus révolutionnaire et en même temps de très concret, parce que c'est une révolution qui traverse l'intime, c'est une révolution qui nous bouleverse tous, et c'est normal qu'elle génère autant de soubresauts, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a, on va le dire très simplement, il y a une donnée biologique évidente que toute personne intellectuellement constituée normalement ne nie pas, mais il y a tout un trajet à partir de cette donnée biologique, il y a une construction culturelle qui a fait qu'on a attribué au masculin et au féminin des caractéristiques comme si elles étaient dues aux hormones ou à ce sexe naturel. Et ça va jusqu'à des choses qu'on expérimente, qu'on a tous expérimenté petit, mais justement pas tous. Quand une petite fille, et j'en ai encore le souvenir, court dans une cour de récréation, quand elle joue aux voitures, quand elle grimpe aux arbres, elle est immédiatement rappelée à l'ordre. C'est un garçon manqué, c'est un masculin qui n'a pas réussi. Quand une femme plus tard est indépendante, elle est masculine. Si une femme ne reproduit pas les critères qu'on attend du féminin et qu'on a défini par le plus réducteur, qu'on a défini à un rôle de complémentarité effacé, discret, dépendant, eh bien, elle transgresse les genres. Et c'est la déconstruction de ce regard-là qui me paraît être révolutionnaire.
Pour reprendre les propos de Claude Habibe, on parlait de Simone de Beauvoir, alors je citerai Sartre. Il me semble que c'est une sorte d'ultra-existentialisme ou d'ultra-sartrisme qui est à l'œuvre dans ce qu'on n'a plus le droit d'appeler la théorie du genre, donc je dirais la métaphysique du genre. Sartre dit « l'existence précède l'essence », mais il était conscient du fait que le donné précède l'existence. Il appelait ça la facticité. Et là, on a l'impression qu'il ne doit pas y avoir de donné. Il ne doit y en avoir aucun, puisqu'en effet, tout relève de la construction sociale et surtout, ce qui est construit est là pour être déconstruit.
quand c'est une assignation.
Il y a un grand ministère de la déconstruction dans le monde intellectuel, et ses représentants sont aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs. Mais enfin, quand vous dites déconstruire les stéréotypes, c'est bien, peut-être, simplement, ces stéréotypes, c'est-à-dire cette idée d'une différence, non seulement des genres, mais des sexes, hein, elle est à l'œuvre dans toute la peinture, dans toute la littérature. Et donc, on est en train de demander à des enfants de 4 ans, j'exagère toujours, on est en train de demander à des enfants de 4 ans de déconstruire le patrimoine culturel.
Heureusement que vous avez précisé que vous exagériez un peu. On ne demande pas à des enfants de 4 ans, pardon, après je laisse la parole avec le Labib, de brûler la peinture et la Renaissance. On demande à des enfants de 4 ans de ne pas traiter de PD dans la cour de récréation un garçon qui aime la danse ou jouer la corde à sauter. C'est tout ce qu'on demande. Et pour ça, des familles manipulées par des réseaux à la fois islamistes et d'extrême droite catholique ont retiré leurs enfants des classes. Non, on demande juste de ne pas traiter une petite fille qui court de garçon manqué et un garçon de PD quand il aime l'art.
Claude Habib.
Sur la déconstruction, bon, on peut pleurer pour le patrimoine. Moi, j'aurais tendance aussi, parce que j'enseigne la littérature. Et évidemment, si on veut déconstruire les stéréotypes genrés, on peut mettre la littérature à la poubelle, c'est plus la peine.
Mais non, on peut la regarder avec les yeux d'aujourd'hui.
Oui, enfin, ça veut dire que tout l'enseignement de la littérature passe son temps à montrer à quel point le passé était inique. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez desséchant. Mais ce n'est pas sur le patrimoine et le passé que je voudrais vous parler de cette histoire de stéréotypes genrés. C'est à partir de ce que vous disiez, et qui me touche beaucoup, sur le viol. Les chiffres qui sont sortis récemment sont des chiffres terribles. Ils disent 16% des femmes victimes de violences ou de viols ou de tentatives de viol au cours de leur vie. 16%. Alors je sais bien qu'il y aura toujours Marcella Yacoub pour dire on leur a tordu le doigt et elle crie très fort, mais moi je prends ces chiffres au sérieux. Et surtout ce que je prends au sérieux, c'est que parmi ces 16%, 81% c'est avant 18 ans et 21% c'est avant 6 ans. Ça veut dire que dans une classe de 32 enfants de 6 ans, l'une, c'est à 95% des femmes, une a subi des attouchements ou des tentatives de viol. Bon, alors, à partir de là, votre déconstruction des stéréotypes genrés, moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, quand vous avez des enfants, une des tâches, forcément, de la mère, c'est de protéger la fille et de lui demander une attitude prudente qu'elle ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que vous voyez une petite fille qui ressemble à un balthus avec sa petite culotte qui se voit trop et vous lui dites « tiens-toi bien », et la petite fille ne peut pas comprendre pourquoi vous lui dites ça. On ne peut pas mettre tous les satyres en prison. Il y a déjà un tiers dans les prisons françaises qui sont des prisonniers pour des motifs sexuels. On ne peut pas les trouver. On ne peut pas tous les éradiquer.
Demander à une petite fille...
Corinne Forest.
Enseigner une petite fille de savoir courir n'est pas quelque chose qui la met en danger par rapport au viol. Soyons sérieux. On n'est pas en train de dire...
Forcément, vous n'éduquerez pas une petite fille comme
Alors on renonce à tout. Donc en fait, vouloir tout simplement éduquer des femmes à se défendre face au viol, c'est brûler les tableaux de la Renaissance, c'est insulter le passé et c'est en plus se mettre entre la mère et l'enfant. Là, alors, si on redevient sérieux, 5 minutes. Déconstruire les stéréotypes à l'école, c'est simplement, encore une fois, éviter que quand des petits garçons se comportent dans les cours de récréation et dans les classes de façon brutale et violente avec les petites filles, il y ait des alertes dans le corps enseignant qu'il n'y avait pas avant.
Je suis d'accord.
Mais en réalité, ce n'est que ça. Ce qui a créé la polémique.
Non, mais je me moque de la polémique. Je vous parle sérieusement du stéréotype genré. Est-ce que vous imaginez qu'on peut exactement, quand on est un parent responsable, ne pas mettre des limites à la fille, je veux dire...
Mais pas en lui demandant d'être discrète, en lui demandant d'être vigilante. Écoutez, concrètement, c'est exactement la même chose que d'ailleurs sur le voile. Il y a des garçons qui sont dans tous leurs états parce qu'ils voient les cheveux des femmes. Ça les met dans tous les états. Leurs hormones se mettent à bouillir, ils pensent que c'est un objet sexuel et qu'ils ont le droit de se l'approprier. Est-ce qu'on demande aux filles de cacher leurs cheveux parce que ces garçons ont un problème hormonal ou est-ce qu'on demande aux garçons de se tempérer? C'est la même chose sur la question du viol de façon plus universelle. On demande simplement à ce que l'école et les parents prennent conscience qu'ils doivent faire en sorte que leurs petits garçons se comportent avec les petites filles de façon respectueuse.
Oui, vous évitez le sujet.
Claudette, non, oui. Non. Vous voulez ajouter quelque chose, Claudette?
Vous l'avez déformé.
Non, vous évitez le sujet parce qu'il faut protéger la petite fille, non pas des petits garçons de l'école, mais des satyres dans la famille. Et vous savez bien que cette protection passe par une attention, une vigilance de la mère sur les hommes. Mais aussi...
Qui critique cette vigilance?
Mais aussi dire à la petite fille, ne montre pas ça.
Tiens, donc s'il y a des pédophiles dans la famille, il faut que la petite fille garde les jambes bien serrées parce que sinon, c'est ça le problème. Écoutez,
mais évidemment,
la lutte contre la pédophilie dans la famille passe par la lutte contre le patriarcat. Et la lutte contre le patriarcat passe par la lutte contre les stéréotypes de genre.
Mais on est maintenant. On n'est pas dans l'avenir radio où il n'y aura plus de pédophiles dans la famille.
Mais
donc qu'est-ce que vous faites maintenant
plus, donc, si vous voulez.
Donc qu'est-ce que vous faites maintenant?
On est très vigilant envers quelqu'un qui, dans la famille, on ne confie pas son enfant à quelqu'un dont on peut penser qu'il a des tendances pédophiles. C'est assez simple en réalité.
Mais en même temps, vous disiez que j'exagérais, Caroline Fourest, mais vous exagérez un peu aussi parce que vous dites vous-même qu'il s'agit de regarder le patrimoine avec les yeux d'aujourd'hui. Or, tout enseignement de la culture digne de ce nom consiste à regarder aujourd'hui avec les yeux du patrimoine. Sinon, il n'y a pas de culture. Sinon, c'est fini. Il faut pouvoir se regarder du dehors. Et ce sont les grandes œuvres qui nous permettent de le faire. Deuxièmement, vous dites que les stéréotypes de genre, c'est des choses tout à fait légitimes. Les petits garçons ont le droit d'aimer la danse, etc. Et les petites filles d'aimer courir. Mais il s'agissait aussi, dans les ABCD de l'égalité, de faire en sorte que le chaperon rouge soit un garçon. C'est-à-dire, il y a quand même une sorte de marche forcée vers l'indétermination. Et comme l'a dit Claude Habib, citant Bérénice Levet, vers l'interchangeabilité. Nous ne sommes pas seulement égaux, nous devons être c'est interchangeables et donc traquer là où on le peut, le féminin dans ses expressions les plus innocentes. Il ne doit pas y avoir de féminin. Donc, non seulement les filles ont droit de jouer au ballon, mais il faudrait mieux pas qu'elles aiment spontanément jouer à la poupée.
C'est du redressement. Votre exemple du petit chaperon rouge, c'est exactement la question que je vous pose.
Oui.
C'est la féminité exposée au danger dans le bois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on va dire...
Oui. Je vous dis qu'un petit chaperon rouge qui sait se battre et qui sait courir est moins en danger qu'un petit chaperon rouge qui ne sait pas. Et puisque vous êtes tous inquiets pour le petit chaperon rouge...
Évidemment.
Évidemment, nous sommes tous inquiets pour le petit chaperon rouge.
Pour la différence des sexes.
Non, vous êtes inquiets pour le patrimoine. Alain,
Et
la différence des sexes. Alors, je vais vous rassurer.
Merci,
depuis des milliers d'années, la différence des sexes se porte extrêmement bien.
Ah bon.
Ce qui est un tout petit peu violent, c'est de vouloir considérer comme une violence, justement, le fait de ne plus être assigné, et du coup vous faites passer le fait de ne plus vouloir être assigné en assignation. Donc je comprends, c'est une astuce rhétorique très tentante, mais encore une fois, personne n'oblige un petit garçon à se déguiser en fille, s'il n'en a pas envie. Et vouloir nous faire croire qu'aujourd'hui le féminin a gagné partout, s'impose partout, et que donc le masculin est en souffrance, est évidemment à la base du retour et de la défense de ceux qui sont très attachés au patriarcat, qu'ils considèrent comme un patrimoine culturel en danger, mais ça n'est pas exactement la réalité ni du monde, ni d'aujourd'hui. Et donc encore une fois, pardon, vouloir jouer des rôles masculins ou féminins est simplement l'octroi d'une liberté, oui, d'une liberté individuelle. On a du masculin, du féminin, chacun en nous. On les a mal définis. Est-ce qu'on a le droit de les redéfinir et pour autant de toujours aimer les tableaux de la Renaissance et de pouvoir dire à des enfants que c'est une période magnifique, que les tableaux sont magnifiques et en même temps éveiller notre regard au fait que dans l'histoire, on a peut-être effacé des personnages féminins fondamentaux, des personnages de femmes parce qu'on les jugeait secondaires. Est-ce qu'on n'a pas envie de les redécouvrir? Ça n'est pas effacer ni enfoncer les personnages masculins que nous connaissons déjà, c'est enrichir notre patrimoine culturel.
Croyez-vous, mais enfin, du 16e au 18e, il y a tous les livres de la querelle des femmes, vous avez tous les livres pour dire il y a eu des femmes célèbres, il y a eu des femmes qui se battaient, il y a eu des femmes générales d'armée, il y a eu des reines, enfin...
Qu'on a beaucoup effacées, mais il y en a beaucoup qu'on a effacées.
Oui, mais je veux dire, c'est vraiment dans la culture occidentale, c'est un poncif, hein, les femmes importantes, les femmes célèbres...
Justement, dans un rôle très exotique et très symbolique, pas dans un rôle... Je parle de personnages qui réellement ont fait des choses et qui sont moins retenus par l'histoire parce
que... comme d'ailleurs le dit Claude Habib dans son livre « Galanterie française » et Mona Ouzouf, la France a été au XVIIe et XVIIIe siècle la patrie des femmes. C'est un mot de David Hume. Et elles étaient, dit David Hume, justement maîtresses de la conversation. On ne conçoit pas les salons sans les femmes. Alors certes, elles écrivaient moins que Voltaire et Diderot et les philosophes, mais le style français est né aussi de cette volonté de plaire aux femmes qui avaient une sorte de magistère. Alors tout cela mérite d'être reconsidéré, bien sûr, oui. Mais on ne peut pas dire que les femmes sont une découverte récente et qu'on on est passé du stade obscur de la domination masculine au stade radieux de l'émancipation.
Vous avez raison, d'autant que l'histoire n'est pas linéaire. Il y a des grandes civilisations où les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir dans le passé qu'aujourd'hui. Quand on redécouvre l'histoire de la civilisation perse, quand on redécouvre l'histoire de toutes les grandes femmes, notamment de l'époque pré-monothéiste, on peut mesurer à quel point notamment le monothéisme, a été un vecteur de patriarcat et de destruction du pouvoir d'un certain nombre de femmes qui en avaient plus avant.
Alors maintenant, je reciterai Simone de Beauvoir et je vous demanderai, en commençant par Claude Habib, ce que vous en pensez. C'est à la fin du deuxième sexe, elle dit « La dispute, donc la dispute Hoffmann, durera tant que les hommes et les femmes ne se reconnaîtront pas comme des semblables, c'est-à-dire que se perpétuera la féminité en tant que telle. » Quelle est votre réponse, Claude Habib, à cette idée exprimée par Simone de Beauvoir, au nom de l'égalité et des progrès du semblable? La féminité est-elle l'ultime obstacle à la libération des femmes?
Je sais pas, mais comme on n'a qu'une vie, moi, j'ai pas l'intention de réprimer mon intérêt pour la féminité au nom d'un avenir meilleur où l'égalité serait acquise. Et donc, je trouve la féminité est un thème important dans les villes. Même les poncifs, même les stéréotypes genrés qu'on voudrait balayer peuvent avoir une place d'entour dans les vies. J'ai trouvé cette idée chez une théologienne protestante, France Quéré, qui...
France Quéré, oui, que j'ai connue.
Ah bon ?
Oui, oui.
Elle dit une chose intéressante. Elle dit, quand les sexes exagéraient leurs différences, le prestige affecté à chacun d'eux, la virilité, le courage, l'intelligence chez l'homme, la douceur, le mystère, ne vous énervez pas Caroline, chez la femme, croyance plus ou moins fondée, épaulaient la médiocrité des personnes singulières, grandies par la gloire inhérente à leur sexe. J'ai souvent admiré le respect sincère que certaines de mes amies du Maghreb portaient à leur époux, que pour ma part je jugeais sot, parfois odieux. Elles étaient soutenues par une symbolique masculine qui rehaussait un mérite parfois déficient. Et même, dit-elle, les stéréotypes désobligeants, voilà bien les femmes, vous savez comment sont les hommes, cache une part de ravissement amusé, voire de tendresse qui s'avoue par le détour du mépris. Je trouve que c'est très intelligent de penser qu'il y a dans le stéréotype quelque chose d'affectueux, oui, et quelque chose qui peut avoir de la valeur.
C'est la grandeur des lieux communs, si on peut dire.
Le stéréotype est un compliment maintenant. Écoutez, est-ce qu'on peut dissocier la crainte, et ça a toujours d'ailleurs accompagné la crainte du féminisme? La crainte du féminisme a toujours été que on revienne sur un langage amoureux, un jeu de séduction où le masculin et le féminin, évidemment, entretiennent une part de mystère, une part de complémentarité. C'est assez troublant quand on vit des situations amoureuses qui ne sont pas basées sur ces stéréotypes comme étant des stéréotypes naturels. C'est-à-dire que la conversation amoureuse, par définition, est un jeu de mystère, est un jeu de complémentarité. Mais ce qui est fou, c'est de venir de civilisations qui sont profondément et intimement persuadées que c'est lié à la donnée naturelle et biologique des sexes. Alors qu'en réalité, ce jeu-là existe en chacun de nous. Il existe entre deux femmes, il existe entre deux hommes, il existe entre un homme et une femme, et il n'existe pas de la même manière entre un homme et une femme d'autres tempéraments. Comme la répartition des rôles dans la vie quotidienne est une conversation qui s'écrit entre deux individus. Et quand on est un homme et une femme, on a hérité du poids d'une assignation qui est qu'on pense être fait pour certaines choses et que l'autre est fait pour d'autres choses, et on doit le déconstruire chacun pour trouver quelle est au fond sa complémentarité de l'un envers l'autre. Quand on n'a pas ce poids-là, parce qu'on est un couple de femmes ou parce qu'on est un couple d'hommes, on s'amuse de voir à quel point les gens confondent de l'ordre de la complémentarité individuelle avec, encore une fois, une histoire qui est liée à une donnée naturelle et biologique. Donc moi, je pense que cette part de mystère et de féminité auquel vous tenez, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que le monde devenait trop féminin et que c'était la fin de la civilisation. Maintenant, il n'y a plus assez de féminité.
Quand est-ce que j'ai...
Non, je parlais plutôt à Alain. Je refais une plaisanterie sur le patrimoine.
Je n'ai pas parlé de la fin de la civilisation, quand même.
Mais
Je peux en parler si vous voulez, mais j'en ai pas parlé.
Donc dans ce deuxième temps, nous sommes plutôt dans la féminité menacée. Mais là aussi, j'ai envie de vous rassurer. La féminité existera toujours. Au contraire, elle peut même exister. Elle existe chez Alain, elle existe chez moi, elle existe chez vous, Claude. Mais elle ne s'exprime pas de la même manière. Non, et chacun doit doser comme il en a envie.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas dire...
Que David.
Je définis la féminité à condition que Alain puisse être féminin.
C'est au dosage qu'il souhaite.
Au dosage qu'il... Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui vous trouble dans ça? Vous pensez que vous n'avez rien de féminin en vous?
Non, mais je n'en sais rien. Mais si vous voulez, il y a... Après tout, dans le nouveau désordre amoureux avec Pascal Bruckner...
Oui, c'est un impérialisme de
nous
dire
avons fait...
qu'il n'y aura de définition qu'individualiste.
C'est-à-dire, non, c'est une émancipation. Ça s'appelle juste
surtout,
l'émancipation.
Mais non,
c'est juste le siècle des Lumières qui a utilisé ça.
L'émancipation, homme et femme, il les créa. La dualité est irréductible. Bah, peu importe.
Ah bah si,
c'est une belle idée. Je pense que c'est une belle idée. L'homme n'existe pas. Le deux ne se résorbe pas dans l'un. Et l'idée que, justement, qu'il y a une irréductibilité, donc que précisément, aussi féminin que je puisse être, j'en sais rien, la femme, ce n'est pas moi. C'est, si vous voulez, c'est une source continuelle d'émerveillement. Et me dire que j'ai une part de féminin, c'est me supprimer cet émerveillement.
C'est extrêmement violent pour vous, j'entends.
Je serais comme une sorte de touriste du monde. Alors, j'ai une part de ceci, j'ai une part d'américain, j'ai une part
Non,
voilà. Non, les différences existent, et notamment celle-là.
Alors, si vous
avez différence, c'est l'irréductible.
Si vous avez décidé que c'était violent de vous dire que vous n'étiez pas un être uniquement masculin au sens de la définition la plus courante. Parce que pour moi, ces définitions, justement, doivent évoluer. Mais entendez qu'il est très violent de dire à une femme qu'elle doit être féminine selon les critères qu'on lui assigne.
Je n'ai jamais dit ça, ma
D'accord. Tant mieux pour votre femme. Mais encore une fois, Claude Habib a le droit d'avoir une envie de féminité qui n'est pas forcément la mienne. Et je peux être, moi, séduite par des formes de féminité que je n'ai pas forcément envie de vivre. Si vous trouvez que c'est un impérialisme que de revendiquer cette liberté individuelle, vous rendez quand même compte que vous êtes au service de millénaires de processus de domination et que vous renvoyez aux gens qui c'est juste
tout,
de dire
que, écoutez,
laissez-nous trouver
dès qu'on
autre
s'occupe
partition
de l'histoire, on
de
voit très bien qu'il y a une construction socio-historique de ces notions. Enfin,
on est au moins d'accord là-dessus.
Je suis 18e-iste, donc je vois que chez Diderot, par exemple, qui est un auteur tant aimé par la gauche, mais chez l'académicien Thomas, chez tout le monde, la femme, c'est la violence. Les femmes sont extrêmes. Vous trouvez cette image de l'hystérie qui est complètement disparue chez nous. On dit que les femmes sont l'indice de la modération en politique, qu'elles ne votent pas pour les extrêmes. Bon,
donc on la redéfinit.
Ça se voit tout le temps que ça bouge. Enfin, c'est pas ça que je peux contester. Mais que ce soit redéfini, que ce soit renégociable, n'empêche pas que cette division, en effet, soit structurante, qu'on ait affaire à « je ne suis pas tout ».
Mais personne n'est tout. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est simplement un homme et une femme qui ne sont pas tout? Personne n'est tout. Dans une dualité, quand on est deux, il y a une dualité. Tous les couples ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas tous la même dualité, tous la même répartition des rôles. Le nier est hallucinant. À partir du moment où on est obligé de le reconnaître, parce que c'est quand même des faits assez faciles à vérifier, c'est bien qu'il y ait une déconnexion entre cette donnée biologique et cette donnée culturelle.
Alors,
et s'il y a une déconnexion, il y a bien donc une marge de manœuvre de liberté, que certains aient envie de l'exprimer. En quoi c'est une violence pour les autres?
Avec l'expression
personne
marge
ne nie
de
aux
manœuvre,
autres.
Je pourrais être d'accord. C'est-à-dire que la liberté ait à voir avec un donné de nature, à ce moment-là, je suis d'accord si vous êtes prête à reconnaître que ce n'est pas purement le caprice individuel qui règle
ses... Bien sûr que non, c'est ce que je vous disais, il y a une part évidemment
c'est ça,
de
c'est ça qui fait un peu peur, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est l'artificialisme technique, doublé de cette espèce de déconstructionnisme généralisé, faire pour un être humain, c'est toujours faire avec.
Bien sûr.
On fait avec
on est d'accord.
Un donné. Bon, alors, si on est d'accord, revenons à la phrase de Simone de Beauvoir. Tant que se perpétuera la féminité, que la dispute durera. J'ai sous les yeux un livre très intéressant de Camille Froidevaux-Métry, La révolution du féminin. Et elle réhabilite une certaine forme de féminité, justement. Elle dit, pour les femmes de l'âge de l'émancipation, l'existence au sein du foyer continue à faire sens. Elles peuvent apprécier la culture domestique. On a dit voilà. Et ce sont les femmes. plus encore que les hommes. Et puis surtout, elle répond à l'argument souvent beauvoirien, la femme soucieuse de son image est nécessairement une femme aliénée. L'idée qu'en effet, il y aurait, pèserait sur les femmes une contrainte d'être belle qui serait comme une geôle immatérielle. Et elle dit non, il y a quelque chose dans la manifestation de soi, en effet, de très important pour les femmes. Vous citez, Claude Habib, cette très belle phrase de Patrick Auchard, « Les femmes se plaisent à plaire ».
Hein, donc, et la définition du féminin, c'est l'être qui se plaît à plaire.
Voilà.
Donc toutes les femmes se plaisent à plaire et aucun homme n'aime plaire.
Mais peut-être pas de la même façon. Peut-être pas de la même façon.
Il y a une différence.
Les hommes ne se maquillent pas généralement comme les femmes. Les hommes ne se préparent pas comme les femmes. Et les femmes, on a l'impression, en effet, que quand elles se préparent, quand elles s'habillent, etc., elles font hommage de leur beauté au monde.
C'est passionnant ce que vous venez de dire. Vous pensez que les femmes passent en moyenne une heure dans la salle de bain, à se maquiller. Non, mais c'est le cas, c'est probablement le cas. Une heure à se maquiller le matin, parce que naturellement, par le fait de leur, je ne sais pas, de leur utérus, de la forme de leurs organes...
Je veux bien que ce soit culturellement, elles
besoin,
moi j'aime la
alors,
culture.
Mais donc, évidemment que c'est culturel. Vous savez ce que ça coûte à une femme d'être laide. Vous savez ce que ça coûte à une femme d'être laide, d'avoir des défauts de peau, d'avoir des cheveux qui ne sont pas totalement apprêtés. Ce que ça lui coûte en termes de pouvoir de séduction, donc de pouvoir d'achat, donc de rapport au monde, donc de rapport au droit d'être dans l'espace public. Regardez la télévision, regardez nos débats, regardez
Caroline, là,
à quel point la laideur des hommes est tolérée et la laideur des femmes est rare.
Alors, j'ai un argument sur cette histoire, parce que là, on va tomber sur l'écueil habituel, c'est culturel, c'est naturel. Pour moi, ce qui a été clair et qui fait que je pense que c'est naturel, se plaire à plaire, c'est les Chinoises. Quand j'étais jeune, on voyait partout les images de la révolution maoïste où Chinois et Chinoises étaient habillés strictement pareil, et les Chinoises avaient soit des tresses, soit des cheveux comme ça, noirs, et puis c'est tout. L'Oréal n'est pas venu là. L'Oréal... Il a été appelé.
Les critères en Asie ne sont pas les mêmes, de beauté.
Non, quand vous voyez la Chine qui s'est libérée à moitié, un peu, du joug maoïste par cette espèce d'horrible synthèse de libéralisme et de totalitarisme dans lequel ils sont, les Chinois s'habillent comme les Occidentales, de manière colorée, teignent leurs cheveux. Je les vois près de la Tour Eiffel, elles sont au burn où elles ont les cheveux frisés. C'est venu, ça a éclos.
Ça a éclos, vous pensez ?
Ça a éclos, c'est-à-dire que...
Mais ça n'a pas éclos puisque c'est venu.
Vous partez d'une répression maoïste de la féminité, répression qui allait très loin. Moi, je me rappelle d'un trouble en regardant un film de propagande maoïste où on disait, c'est formidable, les femmes sont comme les garçons, on est arrivé à l'égalité. Et quand elles ont leurs règles, pour qu'elles puissent être parfaitement productrices à l'usine, on leur enlève leurs règles avec des seringues, comme ça, elles ne sont pas incommodées, elles sont vraiment comme des garçons. Bon, dès que l'emprise du parti a lâché, ce que vous voyez, c'est la féminité chinoise.
J'entends dans la peur exprimée de l'indifférenciation,
j'ai pas peur, là.
Peur du maoïsme et la peur d'une forme de totalitarisme.
Non, mais l'indifférenciation peut avoir quelque chose de très artificiel aussi.
Bien sûr, mais quand elle est imposée, quand elle est normative et non pas une libération de l'assignation individuelle. Mais encore une fois, vous venez nous expliquer, Claude Habib, pardon, je viens juste de commencer ma phrase, Alain, que la sortie du communisme a permis l'éclosion du marketing. Et si vous vous étonnez que l'éclosion du marketing ait permis le fait que des femmes aient plus recours aux produits cosmétiques de L'Oréal, moi je ne m'en étonne pas, c'est tout à fait logique. Dans une société où le pouvoir d'achat...
Mais l'idéologie, elle est dans l'autre sens.
Et c'est
l'idéologie chinoise, elle est
dans... Nous serions dans un monde où les femmes détiendraient l'essentiel du capital, l'essentiel du pouvoir. Je peux vous assurer que pour leur plaire, les hommes feraient beaucoup plus d'efforts. Et d'ailleurs, c'est en train d'être le cas.
Fait des efforts.
Mais évidemment, et d'ailleurs, c'est en train de commencer. J'entends bien que c'est assez douloureux. Mais encore une fois, c'est bien parce que...
Mais c'est un effort.
Au fur et à mesure que les rapports hommes-femmes de pouvoir se rééquilibre, les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux. Vous avez de plus en plus de produits cosmétiques pour que les hommes prennent soin de leur peau.
Non, mais ça, c'est cet idéal. Moi, je trouve cet idéal gâteux de... ils mettront du fond de teint, ça sera pareil. Enfin, là, vraiment, c'est la différence.
Non, ils seront obligés d'être plus beaux. Mais oui, mais dans une société, quand on a besoin de prendre des places, il faut séduire. C'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Aujourd'hui, il se trouve que le devoir de séduction, qui est un devoir magnifique, mais qui est un devoir extrêmement pesant, pèse surtout sur les femmes. Nous allons vers une société où les hommes vont devoir séduire aussi.
Sauf que...
Et Camille Froide-Boumé serait d'accord avec ça,
parce
que
c'est séduction pèse sur les femmes, mais la séduction masculine et la séduction féminine ne sont pas tout à fait du même ordre. Et puis je voudrais dire deux choses. Introduire d'abord le mot d'aliénation, parce que c'est un mot très souvent employé. L'image, ça a quelque chose d'aliénant. Mais là encore, cet usage ou cet abus du concept d'aliénation procède à mes yeux d'une confusion entre la liberté et la souveraineté. Nous ne sommes pas souverains, donc l'aliénation, si vous voulez, elle est constitutive. Nous vivons pour les autres, avec les autres, dans le regard des autres, et ce sera toujours vrai, quels que soient les autres. Ça peut être la société en général, mais ça peut être telle personne qu'on rencontre, et ça peut être la personne avec qui l'on vit. La passion est une aliénation maléfique, on peut rien dire d'autre. Et puis d'autre part, là encore, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes du point de vue de la séduction, une inégalité terrible, c'est que le vieillissement est plus dur à vivre pour les femmes, comme le dit d'ailleurs...
Et ça aussi, c'est naturel pour nous.
Oui, parce que ce que dit montre très bien Camille Froide-Vaux-Métry, c'est qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le corps des femmes. Il y a quelque chose, si vous voulez, la scansion du temps, elle s'inscrit dans le corps. Le passage de la ménopause, par exemple, l'andropause existe, bien sûr, mais elle n'est pas du même ordre. Et la femme intériorise le temps d'une manière différente des hommes. Et c'est pour elle, d'ailleurs, de manière générale, une souffrance plus grande que pour les hommes. Et là encore, ça ne relève pas simplement d'une mauvaise histoire qu'on va corriger en déconstruisant les stéréotypes, ça relève d'une réalité, d'un donné, là encore.
Est-ce qu'on peut faire la part des choses entre le fait d'avoir eu des grossesses, certainement, marque le corps plus profondément et donc fait de l'intérieur vivre encore plus le passage du temps. D'accord, voilà, ça c'est la part de la donnée biologique et naturelle. Maintenant, nous expliquer que les femmes vivent moins bien que les hommes la vieillesse, ou sont plus marquées, ou sont parce que uniquement à cause de cette donnée biologique, c'est oublier, pour le coup, que c'est bien parce que, ça revient à la conversation d'avant, le devoir de beauté, le devoir de séduire pour avoir du pouvoir pèse plus sur le corps des femmes, que le corps des femmes subit plus mentalement, y compris, le contre-coup du temps. Si on peut être plus laid quand on est un homme, on peut aussi être plus vieux sans perdre de pouvoir. Mais une femme qui perd en beauté parce qu'elle perd en jeunesse, elle perd ce qui lui est donné comme un moyen de pouvoir. Donc elle en souffre forcément plus.
Vous parliez de la beauté uniquement de cette manière médiatique comme...
Pas que médiatique,
c'est... Si, le besoin de pouvoir par la beauté, c'est une manière étrange de parler de la beauté, parce que c'est pas...
Mais c'est le patriarcat qui a légué ça sur le corps des femmes.
Non, mais c'est pas comme ça que je vois la beauté. C'est un effet non pas pour un pouvoir social, mais pour plaire à autrui. Plaire à autrui n'est pas immédiatement inscrit.
Non, mais réalisez pas ce que j'ai dit. Je vous parlais pas de la séduction en tant que séduction. Je vous parlais justement, puisque nous sommes sur une conversation sur le patriarcat et la question du féminisme, je vous disais que dans une société, quand il y a une inégalité des moyens de pouvoir, la séduction est un des moyens de rééquilibrer les choses. Et évidemment, on le voit tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que la séduction n'est que ça. Évidemment, heureusement que la séduction est aussi un lien vers un rapport amoureux, justement.
C'est essentiellement... Autre. Oui, d'accord. Donc, c'est évidemment, essentiellement inscrit dans l'érotique. C'est pour ça que je ne parlerai pas de la beauté ou de cette question de... plaire à plaire comme un devoir, comme vous le faites.
Non, mais comme... je vous dis que c'est un devoir. Je le critique comme un devoir. J'aimerais que ça ne soit pas un devoir, justement.
Comme un désir et une aptitude.
Tout le monde veut plaire.
Je ne crois pas que les petits garçons veuillent plaire de la même façon. Là, je suis vraiment très proche de Rousseau. Le petit garçon, il court après son ballon. Enfin, je veux dire,
et je ne crois pas que vous puissiez résumer tous les petits garçons, fût-ce par Rousseau, à la même attitude et au même comportement. Je pense que des petits garçons ont une mère plus de leur sœur, s'ils ont une mère qui s'occupe plus de leur sœur, qui trouve que dès que sa sœur dit quelque chose, c'est merveilleux, que sa sœur peut courir, que sa sœur peut tout faire et que le petit garçon a moins d'attention, eh bien vous verrez que ce petit garçon se mettra à vouloir séduire.
Alors, ça me paraît assez niais.
Non, c'est pas niais, c'est les constructions des rapports de genre humains qu'ils s'observent quand on veut bien les observer.
Il y a quand même un tragique de la condition humaine à laquelle, me semble-t-il, auquel la déconstruction et la reconstruction ne réussiront pas à parer. Je citerai une dernière fois Simone de Beauvoir. Souvent, je m'arrête éberluée devant cette chose incroyable qui me sert de visage. Rien ne va plus. Je déteste mon image. Au-dessus des yeux, la casquette, les poches en dessous, la face trop pleine et cet air de tristesse autour de la bouche que donnent les rides. Peut-être les gens voient-ils simplement une quinquagénaire qui n'est ni bien ni mal, quel âge qu'elle a. Mais moi, je vois mon ancienne tête où une vérole s'est mise dont je ne guérirai pas. C'est dans la force des choses. Et puis, ceci que dit Camille Froide-Vaumétry, elle dit « Les hommes, bien sûr, sont exposés au déclin, mais eux dont l'existence n'est menacée d'aucune rupture ni d'aucun changement de nature peuvent nourrir l'illusion de leur permanence. » Et elle ajoute « La femme, elle, est condamnée à compter, à égrener, à planifier. Le temps qui passe s'exprime en elle, il laisse des traces, c'est un temps dans l'âge. » Voilà. Parce que quand vous parlez sans cesse de déconstruction, on a l'impression que vous dites, voilà, ce qu'une mauvaise histoire a produit, une bonne histoire peut le corriger.
Mais c'est simple, pas aussi simple. On essaie de complexifier un tout petit peu, encore une fois, le rapport à notre donnée biologique. Vous nous dites, les femmes sont plus marquées par le temps, parce qu'il y a une possibilité de rupture. Je pense que vous parlez de la ménopause, rupture par rapport à cette capacité d'enfanter. Moi, je vous dis que les hommes sont traumatisés par la possibilité d'avoir un cancer de la prostate, parce que ça porte atteinte à leur virilité.
C'est vrai. Et Philippe Barthes a écrit des choses absolument magnifiques dans Pastorale américaine sur ce thème. Pour conclure, Claude Habib.
Oh, conclure, déjà.
Et c'est passé vite parce que la discussion était passionnante. Alors, la conclusion.
Il me semble que la misogynie, l'expression de la supériorité masculine, nous n'en avons pas fini avec elle. Nous n'en avons pas fini avec le besoin arrogant de... d'humilier les femmes, comme vous en êtes indemne, Alain, vous ne vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais toutes les femmes y sont toujours confrontées. Donc on ne peut pas espérer une fin du féminisme. Je crois qu'on vivra avec, et on vivra avec aussi longtemps qu'une égalité parfaite, qui me paraît asymptotique, ne sera pas acquise.
Voilà une conclusion qui vous réconcilie, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline Fourest et Claude Habib. Alors, Caroline Fourest, vous avez écrit Ina, les paradoxes d'une fémène, aux éditions Grasset. Vous allez publier le 28 avril Éloge du blasphème, chez Grasset. Claude Habib, je voudrais citer votre livre, Le goût de la vie commune, chez Flammarion. Et puis, Nous les chats, publié aux éditions de Fallois. C'est un tout autre sujet, mais précisément, la culture, c'est le bonheur des digressions. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Régis Nicolas, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.